Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème, et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Tahiti, de l'autre côté du miroir, une série de Delphine Morel et Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a le fantasme des îles paradisiaques et lascives peuplées de vahinés, les colliers de fleurs et autant de clichés à balayer. Il y a les mythes des explorateurs et puis parfois, il y a des rencontres entre ceux qui débarquent et ceux qui vivent là. Alors pour commencer, les personnages. Un Tahitien oublié venu à Paris, un gardien de la culture, une historienne qui déroule, un historien qui tâtonne, un metteur en scène qui raconte et une archéologue qui compare. Ensuite, le décor. Des hibiscus rouges, la politique, des expéditions, le colonialisme, la couleur de la peau, l'antiquité comme référence, l'accueil, la peur, la méfiance, la force, la trahison, la mémoire et le goût de l'aventure. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive dans la vallée.
Donc on est dans quelle vallée, la île, en fait ?
Alors, c'est la vallée de Papenon. C'est la plus grande vallée de l'île. Alors ici, il n'y avait pas, évidemment pas de route, c'était des sentiers. Là où on est, c'était quasiment une forêt de bambous, très dangereuse d'ailleurs, beaucoup de personnes qui se perdaient. Et donc, il fallait savoir reconnaître les sentiers, reconnaître les plantes. Hein. Il y a notamment l'hibiscus rouge qui a été planté par les anciens, qui se voyait de très loin. Hein. Et là où il y a un hibiscus, il y a le chemin.
Yves Doudoute, membre d'ORU, association de protection de la vallée de Papenon et de sauvegarde de la culture polynésienne.
La recherche dans l'organisation de la société de l'époque. Les archéologues ont découvert des centaines et des centaines de structures dans cette vallée.
Je disais que je n'étais pas tout à fait pour dire temple uniquement. Parce qu'en fait, c'était le lieu où tout se décidait. On appelle ça marais aussi, mais bon.
On parlait à l'époque de 600, mais je pense qu'on est arrivé à 900 maintenant. Donc, c'est ce qui prouvait que c'était très habité. Pour eux, à l'époque, ils me disaient qu'il y avait entre 6 et 12 000 personnes qui habitaient ici.
Le départ d'Aoutourou avec Bougainville, ça serait quoi votre hypothèse ?
À mon avis, c'est le goût de l'aventure. Hein. Tout simplement, Aoutourou a voulu aller voir ailleurs ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que... Les Polynésiens, c'était des nomades. Ils allaient de place en place rencontrer soit des amis, soit de la famille qui étaient éparpillés. Là, les gens découvrent, tout le monde parle de tout ailleurs, pour vous dire comment l'histoire peut changer. Hein. C'était un triste inconnu, personne ne savait qui c'était. Et en 2012, on fêtait le passage de Cook, ici à Tahiti, où il était venu observer une conjonction entre Vénus et le Soleil. Donc, ils sont allés à la pointe, qu'on appelle Vénus maintenant, alors qu'elle a son nom tahitien, en mémoire de Cook. Et nous, de notre côté, on s'était dit, attends, et Tupaya, alors pourquoi pas lui ? Parce que finalement, si Cook a découvert autant d'îles, ben c'est grâce à Tupaya. Cook tout seul, il ne serait pas arrivé. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'honorer Tupaya, tous les ans.
Et vous pensez qu'Aoutourou aussi va avoir une sorte de postérité
pour le, pour le moment, j'en entends pas parler. Mais je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Hein. Ça viendra en son temps. Maintenant, il faut savoir connaître la vie d'Aoutourou. Elle n'a pas encore été démystifiée. Hein.
La série documentaire.
À la recherche d'Aoutourou, premier Tahitien en Europe.
Pour France Culture, Radio Franihiro.
Le premier qui va embarquer, c'est Aoutourou. C'est lui qui part avec Bougainville, donc en avril 1768. Et c'est le premier Tahitien qui met le pied en Europe, qui arrive en France et qui va y passer une bonne année avant de repartir. Et je pense que c'est vraiment le goût du voyage, de la découverte, d'aller voir un autre monde.
Corinne Rebaud, historienne et conférencière.
Donc après, le suivant qui va embarquer, c'est l'année suivante, Tupaya, qui lui tient absolument à monter à bord, mais peut-être pour des raisons politiques et de stratégie personnelle. Donc il va quitter Tahiti à bord de l'Endeavour avec l'expédition de Cook et malheureusement mourra à Batavia. À peu près un an et demi après son embarquement, lui n'atteindra jamais l'Europe. Et puis, on a Omai qui part avec le deuxième voyage de Cook et qui reviendra avec le troisième. Et lui, donc, va découvrir l'Angleterre, sera reçu. Chaque fois, hein, Aotearoa comme Omai sont très bien reçus à la cour. Ils ne sont pas montrés comme des personnages de foi. Hein. Ils sont honorés, ils vont dans les châteaux, ils rencontrent les dames. Ils participent à toutes les festivités. Il est dit que Omai creusera un four tahitien dans un des parcs de châteaux, il se baignera dans les rivières, il montrera sa force physique, etc. Il appréciera beaucoup la compagnie des Anglais, tout l'intéressera, et c'est le seul à revenir vivant à Tahiti avec le troisième voyage de Cook. Donc Omai, c'est le seul à avoir fait l'aller-retour vivant.
Qu'en est-il du souvenir d'Aotearoa, de Tupaya, d'Omai qui ont quitté leur île et sont partis sur les bateaux européens. Ici à Tahiti, c'est le grand silence, la non-commémoration de cette période des premiers échanges. En fait, le contraste est saisissant entre la faiblesse des mémoires et le choc qu'ont provoqué ces premiers contacts dans les archipels. On peut sans doute lire, dans cet oubli, la conséquence de 180 ans de colonialisme français, mais aussi le désir actuel des Tahitiens de convoquer d'autres représentations du passé, notamment celle de la société polynésienne d'avant le contact. Du côté européen, nous découvrons ces Tahitiens embarqués sur les bateaux avec les traces, les anecdotes qu'ils ont laissées dans les journaux de bord. Aotearoa apparaît dans le récit du voyage autour du monde de Bougainville, mais aussi dans les journaux de bord de l'équipage. Il a plusieurs noms. Il est tantôt Louis de Citerre, puisque l'explorateur a nommé Tahiti la Nouvelle Citerre, ou encore le Sauvage, appellation que Bougainville réfute pour lui, ou encore Poutavari, comme il aime à se désigner lui-même, selon la coutume de l'échange de noms avec son taillot, son ami cérémoniel, Bougainville. Mais derrière toutes ces appellations, qui était vraiment Aotearoa? Petit lexique, Tata Tahiti, Jean de Tahiti, Raiatea, une des îles sous le vent, Ari, chef, Oro, dieu de la guerre et de la fertilité, Marae, temple, Mana, prestige, Maui, ce qui est autochtone, originaire des îles polynésiennes.
Ouais, je ris, mais c'est totalement en décalage, parce que l'histoire d'Aotearoa est absolument tragique. Ce que raconte Bougainville, c'est assez loin de la vérité des choses.
Véronique Larcade, historienne.
Ce qu'on trouve dans les archives, ce qu'on lit dans les textes, ça n'est pas tout à fait vrai. Et Aotearoa, c'est le personnage caché. C'est le vrai héros du tour du monde de Bougainville. En fait, sans lui, Bougainville n'aurait certainement pas compris le peu qu'il a pu comprendre de la réalité de la vie tahitienne. Aotearoa, c'est le premier Tata Tahiti à être venu en Europe avant le célèbre Omai Mai, qui a passé un an en Angleterre, voilà, dont on a un magnifique portrait, qui est une célébrité.
Évidemment, c'est un défi aussi de s'intéresser à Aotearoa, parce qu'on n'a jamais son point de vue.
Antoine Lilti, historien du siècle des Lumières.
Alors on a une série d'éléments permettant de documenter à la fois son voyage vers la France, puis en partie ce qui lui est arrivé, mais lui n'a pas écrit. On n'a même pas de témoignage qui essaierait d'indiquer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, etc. En tout cas, c'est extrêmement lacunaire. Donc il y a aussi cet élément de défi d'essayer de restituer ce qu'a pu être l'expérience de cet habitant de Tahiti qui s'est embarqué sans doute sans du tout imaginer où il allait, et qui se retrouve projeté dans le Paris du XVIIIe siècle.
Wa te tiau te hurai te pehe te fa teni te mo ai e te mo ohipa fa ahia hia vera.
Je suis lassé de danser, de chanter, de conter les légendes et exploits d'autrui.
Je veux devenir une légende. Les Ario y chanteront et raconteront mon voyage au pays de Dieu. Et l'Iroé aïto tuiro. Et pète mo Ario et fatenia toa toua aï. Et te mo fenua ou te mo atua. Sur le marais, des cérémonies en mon nom se feront. Une montagne portera mon nom et l'on dira. Ne détourne point le regard de Ahotoru, la montagne que le déluge n'atteint point. Et par Ahia, Eyahae Fariwei, Ahotoru, Temao Aeorero Ohiai Tetiru. Les actes et mon nom résonneront dans chacune des îles. Ô guerrier de Pura Pura, des Tuamutu, des marquises, vous le craindrez. Je deviendrai comme un héros. Je deviendrai un dieu. Telles étaient mes premières pensées.
Aotourou, c'est vraiment, j'allais dire, le malchanceux. Le pari qu'il a fait, ou en tout cas la décision qu'il a prise de partir avec les Français, lui a coûté la vie. Il n'est jamais revenu chez lui. Et pourtant, il a compté terriblement. Dans ce voyage qui a été une odyssée. Je veux dire, quand les navires arrivent donc sur la côte est de Tahiti, à la hauteur de l'isthme de Taravao, bon, ils avancent assez vite. Et ils sont rattrapés, ou en tout cas, ils sont poursuivis par des pirogues. On n'arrive pas à rattraper la boudeuse, le navire le plus rapide, mais parviennent à arriver à la hauteur de l'étoile. Et Aotourou, qui est le premier Tata Tahiti, à monter à bord, il le fait au terme d'un véritable exploit sportif, parce qu'il arrive à la force des bras à s'accrocher à un cordage et donc à la fois tracter la pirogue sur laquelle il se trouve et lui-même donc à pouvoir arrimer la pirogue et monter le long des cordages sur un navire qui était forcément beaucoup plus haut que n'étaient les pirogues.
L'arrivée du sauvage Botaveri. Il est venu dans deux pirogues amarrées ensemble et bien ramées, un sauvage vêtu d'un drap blanc, portant à la main un rameau de palme en signe de paix, accompagné d'une fille ou femme de 16 à 18 ans, ayant un morceau de pagne entortillé en pain de sucre autour de la tête, une autour de la ceinture et le reste nu blanc. On pourrait dire mieux qu'en Europe, au moins égal à cet âge. À cet aspect charmant, nous ne tardâmes pas à faire des vœux pour une prompte relâche. Notre imagination politique a beaucoup, dès cet instant, pour savoir si cette beauté n'était point étrangère au pays. Comment est-ce qu'un peuple aussi charmant pouvait être aussi éloigné d'Europe? Et comment il se trouve dans cette île aussi blanche, tandis que tout ce que nous avions vu dans les autres îles depuis notre départ n'y avait eu aucun rapport? Ces gens pagayaient de toute force. Dès qu'ils furent apportés, on leur jeta une amarre.
On lit dans tous les journaux que, aussi bien les Anglais que les Français qui arrivent en Polynésie, trouvent les femmes magnifiques, belles, attirantes.
Serge Tcherkesov, ethno-historien des premières rencontres entre Polynésiens et Européens.
Ces femmes sont si blanches, elles sont si belles, elles sont si blanches, couleur de peau si claire. Les Espagnols même, avant, quand ils arrivaient aux Marquises, disaient « elles sont presque comme les femmes de Lima que nous connaissons, etc. » Donc il y a eu aussi le hasard qui a fait que, pour des questions de classification de couleur de peau, qui commençaient à s'élaborer à cette époque, tout de même depuis que les Européens ont fréquenté les côtes africaines, et même avant, la classification entre les sauvages très sombres et les sauvages très clairs était là un peu partout, déjà même dans l'Antiquité. Et elle ne fait que monter, jusqu'à ce qu'elle prenne après une tournure entre guillemets scientifique horrible au 19e siècle. Mais elle est déjà là. Or, tous les voyageurs de cette époque sont nourris de la culture de l'Antiquité gréco-romaine. Et même s'ils ne le disent pas ouvertement, on peut le voir par le fait que quand ils trouvent les noms des indigènes trop compliqués des différents chefs, qu'est-ce qu'ils vont chercher pour les identifier? Quels pseudos ils leur donnent? Toujours des pseudos de héros antiques. Aîné, Didon, etc., etc. Donc, pour eux, c'était clair. Les Polynésiens, ils sont beaux. Il y a la question couleur de peau. Et il y a la question, c'est les mêmes proportions corporelles que ce que nous considérons être la plus belle statuaire européenne de notre histoire, la statuaire gréco-romaine.
Ariyo imananui, ape, ahura, a faite to arabi ta a enoa to te vai ora to utino rio rio to rimai mua ya u. Ô puissant Arioi, chante, danse, exprime-toi. Où que je sois, mon corps devient soleil. Que vos mains deviennent moites à ma seule présence. Prends garde, effroi. Je suis ton poison. Yaha, to te meha meha teremai. O vau te taero. O vau to ta virivai ututurum. Je suis celui qui renverse les bouches funestes. Jamais vos yeux ne se détourneront de moi. Ma bouche tempère et guide l'assemblée. Telle la lune qui régit les marées. Voilà mon rôle immuable.
Enfin, après environ un demi-quart d'heure de travail, il parvint à accoster le navire, attrapa les chaînes d'auban, monta à bord avec son rameau à la main et renvoya sa pirogue. Il donna son rameau au capitaine et ne parut pas fort étonné. Fit signe qu'il y avait de quoi boire et manger chez lui. Il nous fit entendre qu'il voulait venir avec nous, cria et fit signe à une quantité de pirogues qui nous entouraient, tous des rameaux de palme à la main, ce qui nous donna espoir d'être bien reçus.
Il arrive à bord d'un navire où l'équipage est certainement affamé, en mauvaise condition physique. Et il arrive avec une jeune femme qui est pratiquement dénudée, d'abord parce que on porte des habits en tapas et, et pour lorsqu'on se trouve en milieu humide, c'est pas vraiment adapté. Et puis surtout, elle est déshabillée. Il faut savoir qu'auparavant sont arrivés des Britanniques, l'équipage de Samuel Wallis, qui a tiré au canon sur la foule répandue suite à un moment de panique, qui a fait des ravages. Et on sait très bien que les Européens ont des armes fatales. Et certainement, la venue de cette jeune femme est moins liée à un désir d'échange rapide qu'un moyen de désamorcer une agression de ce point de vue.
Monsieur Lafontaine, un de nos officiers, l'habilla de chemise, grande culotte, veste et chapeau. Peu après, on a sonné la cloche pour la prière. Il est allé voir et regarder comment on faisait. Lorsqu'on fit la prière de l'équipage, il ôta son chapeau, se mit à genoux comme tout le monde, fut fort tranquille. Lorsqu'à la fin de la prière, on cria « Vive le roi !», il cria aussi sans qu'on pût comprendre ce qu'il prononça. Après cela, il s'amusa à aller manger une cuillerée de soupe dans chacune des gamelles de nos gens. Lorsque nous nous mîmes à table, à la chambre, on l'envoya chercher. Il se mit comme nous, avec une serviette. Un couvert. On lui a donné de l'eau à boire, qu'il buvoie. Avec un plaisir à vie, disons. Il n'a point voulu de vin, ni ragoût épicé. Après le souper, on a tiré des fusées qu'il a vues avec grande surprise. On lui a fait un lit sous le gaillard et toute la nuit n'a fait que monter et descendre sous le gaillard pour voir la route que nous faisions par les étoiles ayant passé la nuit à louvoyer.
On va lui donner des habits, il va apprécier de se faire vêtir à la française, il va manger, va découvrir les couverts et manger avec les Français.
Corinne Rebaud, historienne et conférencière.
Il va ensuite participer, semble-t-il, à la prière, il dira même « Vive le roi » à la fin, à sa manière. Et il dormira à bord du bateau. Et ce n'est qu'après un ou deux jours qu'il acceptera de redescendre avec tous ses cadeaux, ce qui fera de lui une sorte de héros qui retourne à terre, nanti de toutes sortes d'objets inconnus pour ses congénères. Et c'est lui aussi qui partira avec les Français, donc confié par le chef Hereti. Il partira au moment de l'appareillage des deux navires et principalement de la boudeuse.
Le voyage qui a lancé tellement de choses de ce que nous appelons aujourd'hui la mythification européenne de Tahiti,
Serge Tcherkesov,
de la Polynésie, repose surtout sur le voyage de Bougainville, dont un, ils sont restés sur place que 10 jours, et que d'autre part, il y avait pratiquement zéro d'intercommunication possible, puisqu'on a ces scènes où Bougainville lui-même décrit que pour expliquer au chef local qu'il voudrait rester un certain nombre de jours, il est obligé de prendre des cailloux dans la main, de montrer le soleil, de prendre un caillou pour dire voilà une journée. Anecdote intéressante d'ailleurs, parce qu'il raconte lui-même, en comprenant pas très bien, un peu vexé peut-être, que le chef lui rend quelques cailloux en disant non mais pas trop, hein. Les Tahitiens, instruits par les expériences précédentes, à tout moment ne savaient pas à quoi s'attendre de l'expédition de Bougainville. Bougainville a été sans lieu de penser qu'ils n'ont jamais été pris pour des amis pacifiques. Ils ont été pris pour d'immenses dangers avec lesquels il fallait... On ne savait pas du jour au lendemain ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il n'y avait pratiquement pas un mot d'intercompréhension possible. Alors se dire que c'est le voyage qui nous dit plein de choses sur la culture tahitienne traditionnelle, c'est renversant. Le tout début de l'interaction a été quand Bougainville a passé des semaines avec Aotearoa à bord, où là, les signes, les mots, ah, tu dis ça comme ça, bon, d'accord. Et c'est après, évidemment, le premier voyage de Cook, après qu'on a commencé à avoir des listes de mots, ce qui fait que lorsque, par exemple, Captain Bligh arrive à Tahiti en 1789, je crois, ou 8, là, oui, là, il peut déjà parler suffisamment avec les chefs locaux, par exemple, pour pouvoir écrire avec une certaine autorité. Ils m'ont expliqué que le nom de ce chef, je veux dire qu'il a été mis au monde, le fameux tout, justement, qu'il a été mis au monde par un dieu qui est venu rencontrer la mère pendant la nuit. Et ça, évidemment, c'est une anecdote intéressante parce qu'elle montre bien ce côté moitié homme, moitié dieu des grands chefs.
Aotearoa, c'est sûr, de par ce qu'il est à la fois spirituellement et ce qu'il est socialement, facilite l'arrivée des Européens. Et c'est lui qui, semble-t-il, négocie l'accueil des Européens à Haïtia. En tout cas, Aotearoa, c'est visiblement quelqu'un qui appartient à la haute société tahitienne. Il est apparenté au chef d'Itia, le lieu où vont mouiller les navires de Bougainville. Donc, il fait partie de ce qu'on peut considérer l'aristocratie tahitienne. Et il appartient au monde des arioi, c'est-à-dire des... Là encore, on emploie un vocabulaire qui est un vocabulaire religieux de référence européenne et qui est sans doute pas adapté à la spiritualité des Tata à Tahiti. Donc il appartient à ses adeptes, à ses missionnaires du dieu Oro.
On pense que le culte de Oro n'a pas démarré à Raiatea, mais a démarré plutôt à l'île de Borbora.
John Merai, metteur en scène et professeur d'Orero, l'art déclamatoire tahitien, au conservatoire de Papeete.
Et à la suite d'une guerre, lorsque un chef de Borbora a envahi donc Raiatea, il a remporté cette bataille et il a imposé son dieu. Donc Oro a été adopté et surtout, c'est le dieu en même temps de la guerre, de la fertilité et de la vie. Donc, il y avait la puissance, il y avait la terreur qu'un dieu pouvait inspirer. On pense que c'est grâce au chef, au Ari Tamatoa premier, il a développer le mouvement des arieux qui est devenu une véritable secte dans le sens noble du terme. L'un des critères que l'on considérait important au démarrage pour être un arieux, c'est d'abord physiquement être beau. Bon. Alors, Aotearoa, d'après les descriptions, il n'était pas particulièrement beau. Hein. 1m70 au plus, donc il n'avait pas la stature d'un vrai arieux. Par contre, il était agile. Cela pouvait fort bien l'aider, faire des pirouettes, agir. Il y avait beaucoup de pantomimes chez les arieux. Alors, Aotearoa, je pense que c'était un arieux plutôt du style joyeux, parce que je n'ai pas lu d'attitude belliqueuse de arieux. C'était certainement un grand jouisseur, il profitait bien de la vie. Il avait l'air d'aimer les femmes. Hein, et je pense que justement la liberté des mœurs chez les arieux pouvait correspondre aux agissements de Aotearoa. On n'a pas parlé de grand séducteur non plus. Hein. Non. Il était petit, hein. Napoléon aussi était petit. Hein. Mais je crois que c'était quelqu'un qui est beaucoup plus un harieux, peut-être de la quatrième classe. C'était pas certainement un grand harieux, un chef harieux.
Alors oui, effectivement, les harieux, ça reste quand même aussi une confrérie un peu encore assez obscure, hein, parce que on ne sait même pas comment l'appeler. Est-ce qu'on l'appelle secte? Est-ce qu'on l'appelle caste? Est-ce qu'on l'appelle confrérie? Confrérie d'inspiration religieuse.
Tamara Maric, archéologue et directrice des collections au Musée des Îles et de Tahiti.
Il y a des auteurs qui ont comparé aussi les harieux avec un fond commun qu'on trouve ailleurs en Polynésie. Par exemple, les kaoi aux Marquises, qui en fait ne désigne pas une confrérie particulièrement, mais qui désigne un âge de la vie, qui correspond grosso modo à l'adolescence. Et donc aux îles Marquises, les jeunes gens passaient dans cette espèce de ce groupe ou cette confrérie ou cette espèce de mini-classe sociale qui est temporaire, qui correspond à un âge. Et donc tous ces jeunes gens se réunissaient en groupe et ils étaient entraînés, ils étaient formés pour participer à des fêtes. Donc ils apprenaient la danse, ils apprenaient à confectionner des costumes, à faire des banquets, à animer un peu les grandes fêtes, les koina koika aux Marquises, qui jouaient un rôle très important parce que ça permettait, entre les différentes chefferies des différentes vallées, de se retrouver dans un contexte non guerrier. Et donc ils pouvaient parcourir les vallées, même en temps de guerre, on ne les attaquait pas. Et on retrouve aussi cette notion de l'adolescence des kaoi dans d'autres archipels de Polynésie. Sauf qu'aux îles de la Société, c'est devenu quelque chose également de religieux. Ça a pu se développer comme confrérie religieuse basée autour du culte de ce dieu Oro.
Les grandes festivités à Rieuil, c'est surtout pendant la période d'abondance. Hein, parce que c'est là que les prêtres constataient le retour des Pléiades et que l'on mettait ça sous le cycle de Oro, par exemple.
Chaque chefferie de l'île de Tahiti, de Moréa et des îles sous le vent avait son marais principal, marais dit national, entre guillemets, ça c'est une traduction française un peu grossière, mais le marais du district, très important, avec le grand centre cérémonial, avec le hangar des pirogues sacrées, et avec le Fare Arioi, la maison des Arioi, qu'ils occupaient donc lors de fêtes cycliques, qui étaient liées notamment beaucoup au calendrier ancien, qui s'articulait autour des deux principales saisons, c'est-à-dire la saison humide de fertilité, dite d'abondance, Matar Inia, qui est, c'est-à-dire à partir du 20 novembre, quand on voit ce groupe d'étoiles se lever dans le ciel, on arrive pendant la période des pluies, la période humide, la période d'abondance, et qui s'achève autour du mois d'avril-mai, Matar Iraro, c'est-à-dire Matar I tombe, on ne voit plus les Pléiades, et on entre dans cette période de restriction, où là, bon, apparemment, les Arioi se retiraient dans leur dépendance. Lorsqu'ils étaient en groupe, ils pouvaient se retirer dans les montagnes.
Les Arioi, oui, voilà. C'était leur rôle. Quand ils se déplaçaient, généralement, on décrit, hein, c'était une troupe. Ils pouvaient dépasser 100-150 personnes. Ça fait 4 à 5 pirogues. Quand ils arrivaient, c'était festivité. Hein, et la fête, mais ce n'est pas eux qui payaient, hein. C'est le peuple, c'est le petit peuple qui est là, qui fournissait tout ce qu'il y avait. Si bien qu'à la fin, après le passage des Arioi, c'était un peu comme Attila. Il n'y avait plus d'herbe sous le sol. Ben, c'est un peu comme ça qu'avec les Arioi, lorsqu'ils venaient, c'était la fête, il fallait fournir. D'autant plus qu'ils étaient sous la protection du dieu Oro. Donc c'était des êtres, entre parenthèses, divins. Ils étaient obligés de respecter leur mana. Et eux, ils profitaient bien de leur mana. Ils avaient tout, manger, le boire, les femmes, etc. Et puis quand c'était fini, ils partaient, et c'est le petit peuple qui était obligé de replanter ce qu'il n'y en avait plus. Donc on ne peut pas dire que les Arioi bénéficiaient toujours de l'appréciation des grands, oui, parce que ce n'est pas les grands qui plantaient non plus, hein. C'est qui plantaient les cocotiers, qui plantaient les tarots, c'est toujours le petit peuple. C'était des gens qui étaient là pour l'amusement.
Converser avec eux était très difficile. J'avais de fait plus d'aisance à comprendre ce que les nuages, les courants marins et les étoiles me disaient. À mesure que l'on s'éloignait de ma terre, le soleil devenait moins chaleureux. Peut-être ne le traitait-il pas bien. D'ailleurs, aucune prière ou offrande ne lui était faite. Le soleil avait beau resplendir de sa présence, il ne me réchauffait plus comme à son habitude.
Une des choses qui est certainement peut-être une indication de ce qui faisait
Véronique Larcade,
la personnalité, l'individualité, l'équation d'Aoutourou, c'est son attitude à l'égard de Jeanne Barré. L'autre personnage extraordinaire de l'expédition, cette femme qui, travestie, s'est embarquée pour être l'assistant de Commerson et qui, à Tahiti, a été identifiée comme effectivement une femme. Enfin, laissant planer évidemment beaucoup de questions sur le fait qu'elle ait pu passer inaperçue, seule femme dans un équipage d'hommes et surtout dans des conditions de promiscuité très 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 grande. En fait, Aoutourou, à son égard, a une attitude très... peut-être d'amitié, en tout cas de sympathie.
Avant, attends, ça commence
là.
Les soupçons.
Mmh. Voilà. J'ai fait encore du jeu français.
Oui.
Terena Rey.
Ok. Les soupçons commençaient à tomber, faute de preuves, lorsque nous arrivâmes à la nouvelle citerre. Le sauvage de bord, Boutaveri, dont j'ai fait mention, dès qu'il aperçut dans la foule de l'équipage ce personnage, il se mit à courir après elle en criant « Aïe néné, qui veut dire fille ?» en langue du pays, lui fit des démonstrations de propositions bien intelligibles. Nous fûmes tous étonnés de voir que cet homme l'avait reconnu et de l'ardeur avec lequel il s'en est occupé. Il n'en fallut pas davantage pour assurer à tout l'équipage le caractère de son sexe. Quelques jours après, elle s'en fut à terre avec son maître pour herboriser. Dès qu'elle fut descendue, tous les sauvages se la tirèrent les uns et les autres en criant mille fois « Aïe néné, aïe néné !»
Cette histoire de femmes à bord,
Corinne Rebaud,
des bruits déjà
historienne
avaient commencé à
et conférencière
depuis l'Amérique du Sud, quand l'étoile avait rejoint la boudeuse en Amérique du Sud. Donc, mais ils étaient restés assez restreints puisque, semble-t-il, elle ne quittait pas Commerson, elle restait dans sa cabine, ils allaient arboriser tous les deux. Donc ça ne prêtait pas vraiment l'occasion à trop de discussions. Et lorsque Commerson, le botaniste, descend à terre avec son valet Jean Barré, eh bien là, les Tahitiens qui étaient sur le rivage se jettent sur il, elle, et finalement le déshabille et découvre en criant que c'est une femme et voulant lui faire les honneurs de l'île, j'imagine. Eux-mêmes présentaient leur femme, ils ont peut-être sous-entendu que c'était un cadeau qui leur était apporté. Et donc la sentinelle a dû séparer finalement Jeanne de ses prétendants et l'a renvoyée à bord, et à partir de là, elle n'est plus redescendue à terre. Et on peut quand même considérer que Louis-Antoine de Bougainville, le grand connaisseur de femmes, n'avait pas pu se tromper sur l'identité, le genre du valet, mais qu'il avait fermé les yeux, probablement à condition qu'il n'y ait pas de trouble, pour pouvoir garder Commerson, qui était le botaniste qu'il fallait avoir à bord.
Il aimait beaucoup que Jeanne Barré le coiffe, l'habille à l'européenne, et il était très à l'aise avec ça. Alors que, semble-t-il, pour les autres Tata Tahiti, Jeanne Barré, c'était la femme qui venait dans les navires européens où il n'y avait que des hommes, ce qui, évidemment, était éminemment choquant pour des Tahitiens qui, semble-t-il, souhaitait les relations sexuelles des femmes tahitiennes avec les hommes européens. Et sans doute, pour autant qu'on puisse l'envisager, souhaitait que la réciproque soit vraie. Mais ce qui posait problème, c'est qu'il n'y avait pas de femmes sur les navires européens, alors qu'il y en avait visiblement sur les navires polynésiens.
Plusieurs lunes passèrent et je m'habituais petit à petit à leur présence constante. Je dois dire que je me méfiais quand même d'eux, à l'exception de mon ami. À l'image de Hiro, le seigneur de l'obscurité et roi des voleurs, à l'affût du moindre crissement étranger, et qui est le plus méfiant de tous. Je reste sur mes gardes. Ose souiller ma maison de ton pas. Tes entrailles, tu verras. Ta lignée, tu ne verras point.
Dans la tradition polynésienne préoccidentale, on changeait assez facilement de nom.
Jacques Vernaudon, linguiste pour les langues océaniennes.
Les individus pouvaient changer de nom en fonction des circonstances de la vie, d'événements particuliers. On retrouve cette réalité à travers aussi la littérature du contact, puisque les mêmes personnages en fait sont désignés par des noms différents à des époques différentes. C'est le cas de Pomare, par exemple, dont un nom précédent est Tou. Pomare, qui est un personnage très important pour l'histoire de la Polynésie, en fait, il a au moins deux noms connus, Tou et Pomare. Et alors, c'est intéressant parce que lorsqu'il s'agissait de noms de Hari, donc les Hari sont ceux qui appartiennent au rang des chefs, il faut savoir que tous les prénoms sont en fait puisés dans le stock du vocabulaire courant. Tou, par exemple, ça veut dire se dresser, se tenir droit. Po mare, po c'est la nuit, et mare c'est tousser. Bon, c'est lié justement à un épisode dans la vie de Po mare. Et donc, à chaque fois qu'un ari, un chef, prenait un nom, puisé donc dans le vocabulaire commun, ce nom devenait tapu, tabou. C'est-à-dire que le commun des mortels ne pouvait plus utiliser ce mot. Alors vous imaginez quand même un mot comme se dresser, se tenir droit, se tenir debout. C'est compliqué quand ça sort du vocabulaire du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous dire « je me lève », non, vous n'avez plus le droit de dire « tout ». Il faut trouver un autre mot. Et pareil pour la nuit, « po ». Bon. Et donc, on a en tahitien de très nombreux doublons, c'est-à-dire des idées pour lesquelles on dispose de deux mots. En l'occurrence, pour « tout », on a le mot « tout » et le mot « tia ». Donc le mot « tia » est aujourd'hui le mot qui veut dire en tahitien « se dresser, se tenir debout », parce qu'il a remplacé « tout », devenu « tabou hein, »,« tapou ». Lorsqu'il il a été utilisé par cette famille royale. Et donc, on a la même chose pour Po, Po, Rui, Lo, Vai, Papé, etc. Donc, on a des doublons. Ça s'appelle la coutume du Pi. Alors, une autre pratique assez fréquente, c'est d'entre amis, qui justement illustrait également l'incidence des événements particuliers sur son identité, et que lorsque deux personnes étaient donc dans une relation d'intimité, elles pouvaient échanger leur nom. Donc c'est ce qui s'est passé entre Bougainville et Aoutourou. Donc Aoutourou a pris le nom de Bougainville. Bougainville devient dans la bouche d'Aoutourou Poutaveri. Le bœuf devient un peu, etc. Et effectivement, Poutaveri, littéralement, si on devait l'interpréter comme des mots tahitiens, Pouta c'est la blessure, c'est être percé. Et veri, c'est le scolopendre. Donc on peut interpréter Poutaveri comme piqûre de scolopendre. Mais c'est une interprétation a posteriori.
Tamara Marie.
Avant l'arrivée des Européens qu'on connaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y avait eu un certain nombre de prophéties dites par des grands prêtres et des prêtresses, y compris à Mangareva, qui prédisaient l'arrivée des grandes pirogues sans balancier, avec des hommes qui seront comme nous, mais pas comme nous, mais qui font partie de Tetumu, du tronc commun, qui font partie de l'humanité, mais qui seront différents de nous, et qui annonçaient toute une série de grands changements, de grands bouleversements, dont voilà, ils prendront nos terres, voilà, ça dépend des types de prophéties, mais les gens, semblait-il, étaient déjà un peu au courant qu'il allait se passer des choses. Alors est-ce que les gens s'embarquent avec eux pour voir comment ça se passe, ça paraît tout à fait naturel. Hein. Enfin, il ne faut pas oublier que les premiers contacts avec l'Occident, pour les Polynésiens qui étaient extrêmement isolés au sein du Pacifique, j'entends bien au sein du Pacifique, depuis plusieurs siècles, hein, qui ont effectivement beaucoup bougé à l'intérieur même de la Polynésie, des frontières, qui étaient en contact avec des archipels très éloignés, et peut-être même très anciennement avec l'Amérique, hein, ça on a quelques indices, même si le souvenir a pu être perdu. Les Espagnols ont commencé à sillonner le Pacifique dès le début du XVIe siècle, donc avec tous les échouages qu'il y a pu y avoir au Tuamotu, l'archipel dit dangereux, les gens étaient au courant. Donc Tupaya, effectivement, s'est embarqué après avec Cook. Mais ils ont peut-être aussi été envoyés comme, pas comme espions, mais comme indicateurs. Qui sont ces gens? Il faut les accompagner, il faut aller voir quels sont ces pays de l'étranger. Voilà. Mais malheureusement, Arutoru n'a pas pu revenir. Tupaya non plus. Il n'y a que Omai qui est revenu.
Évidemment, on n'a aucune parole d'Aoutourou, ni au départ, ni quand il est à Paris, pour dire « voilà pourquoi j'ai voulu m'embarquer ».
Serge Tcherkesov, anthropologue.
Quand on reconstruit toute l'histoire des migrations polynésiennes, on s'aperçoit que, loin d'être ce qu'on pensait au départ, des migrations juste pour trouver des terres pour avoir plus de place, on s'aperçoit qu'ils ont systématiquement exploré le moindre îlot, ne serait-ce qu'en y restant peu de temps, mais le temps de construire un petit temple, de cultiver du copra. On a ces mythes qui parlent de ces tentatives millénaires, éternellement recommencées, d'essayer toujours d'aller plus loin vers l'Est, parce que c'est là que serait le secret du début des temps et de la vie. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est une des grandes explications du fait que les migrations polynésiennes ont toujours été orientées vers l'Est jusqu'au plus loin, donc Tahiti et la Polynésie française, et même jusqu'aux côtes américaines. Et après, vers le nord, Hawaï, vers le sud, les Maoris. Mais bon, c'est pour dire que dans ces archipels polynésiens, pas seulement les grandes familles, aussi d'autres, avaient toujours cette envie d'aller faire des échanges cérémoniels avec d'autres plus loin. Ça, c'est peut-être un grand trait océanien, que l'échange de biens, de valeurs, est quelque chose qui élève constamment non seulement votre statut, mais je dirais même votre âme et votre devenir ancestral futur. Donc je crois que c'est du côté de ces grandes généralités qu'il faut chercher le fait que, en Polynésie aussi, les Polynésiens voulaient tout le temps aller explorer plus loin. Et évidemment que le jour où ils ont l'occasion de voir des bateaux qui viennent visiblement de très très loin, si pas même les confins du pays des dieux, il y en a eu certainement qui ont eu très peur et qui se sont dit « jamais je n'irai ». Et puis il y en a eu d'autres, beaucoup plus courageux, qui ont dit « je vais peut-être y laisser la vie, ce qui est arrivé, mais j'irai voir ou ces nouvelles grandes îles, ou même le pays des dieux ». Donc pour moi c'est ça qui fait que Aoutourou est l'un de ceux qui a dit « je viens avec vous ».
Dès que les sauvages nous ont vus partir, ils sont venus dans leur pirogue chargée de présents à bord de la boudeuse et le principal chef donna au capitaine quelques présents en ouvrage du pays. Le priant, les larmes aux yeux, de prendre Boutaveri à son bord et de l'amener à notre roi. Ce moment était très attendrissant. Les femmes dans leur pirogue le long du bord pleuraient notre départ et ne pouvaient s'empêcher de faire connaître le chagrin qu'il leur causait. Ils demandaient à chaque instant quand nous reviendrons. Et on voyait la tristesse faire place à la sérénité lorsqu'on leur donnait quelques espoirs de retour.
Aoutourou, c'est pareil pour vous? C'est comme Tupaya?
Je sais pas pourquoi, c'est plus sur Tupaya que les gens, en fait, du moins dans mon entourage, sur lequel on a focalisé. Concernant Tupaya, même si on reconnaît que c'était un de nos plus grands navigateurs polynésiens,
Marévagassien et Néné.
Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré par certains comme un traître, c'est le mot. Pourquoi? Parce que pour nous, il a livré nos secrets, parce que nos secrets de navigation. Et tout pour nous est sacré. On navigue avec les étoiles, mais on navigue aussi, pas seulement avec les étoiles, mais aussi avec les vents, avec l'état de la mer, avec la lune. Il y a tous les signes de la nature, avec les oiseaux, selon de quel côté ils volent, comment ils volent, est-ce qu'on en voit, quelle espèce d'oiseau on voit, quelle espèce de poisson va naviguer à nos côtés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en chacun de nous. Et le fait qu'ils soient allés le dire à des popas, les popas, donc c'est ceux qui ont la peau blanche, c'est pour certains, ils lui en veulent encore parce que ça devait être conservé, ça devait être que pour nous, parce que c'est pas tout le monde, mais les plus grands navigateurs, on sait, on dit que ce sont les Polynésiens qui ont fait des migrations très très lointaines sur des milliers de kilomètres en emportant femmes, enfants, animaux, victuailles. Et leur savoir, même dans le triangle polynésien, on se considère tous comme des cousins. Hein. Pour Ahuturu, je pense pas. Est-ce que toi tu as...
Voilà, c'est la même chose hein, que Tupaya. Ce sont de grands navigateurs. De toute façon, ce n'étaient pas les seuls grands navigateurs. Tout le monde, tous les Polynésiens, tous les Mahé, comme nous on dit, hein, ce sont de très grands navigateurs. On navigue, Mareva a bien dit comment naviguer. Mais en plus de ça, on a nos dieux, comme Ruahatu, qui est le dieu de la mer. Et nous avons aussi nos ancêtres. Tout ce qu'on fait, c'est avec nos ancêtres. Et c'est grâce à eux qu'on réussit. Voilà. Donc, c'est le même esprit. Ils ont fait du bien. Pour certains, mais pour d'autres, ils ont trahi. Donc, voilà, il y a une balance entre les deux. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense de cet ancêtre, de ce Maori? Et on laisse ce libre choix à chacun. Voilà.
C'est un voyage qui est très difficile. À Tahiti, Bougainville ne reste que 10 jours.
Véronique Larcade.
Et qui s'embarque au départ de Tahiti, le 15 avril 1769, il va pendant un an naviguer avec les Européens, avec les Français, pour une traversée du reste du Pacifique jusqu'à Jakarta, qui est particulièrement dure, et ensuite une traversée de l'océan Indien qui est encore plus pénible. Aoturu, c'est quelqu'un, on le sait à travers les journaux de voyage des compagnons de Bougainville, c'est quelqu'un qui a soutenu le moral de l'équipage en improvisant des chansons.
Quelques jours plus tard, tandis qu'il observait le ciel nocturne, le jeune insulaire nomma une douzaine d'étoiles, montrant celle qui indiquait le cap de Tahiti, et dit à Bougainville que s'il naviguait nord-nord-ouest pendant encore 2 jours en suivant la direction d'une étoile particulière, il parviendrait à une île habitée par ses alliés et on leur donnerait de la nourriture fraîche et des femmes. Vraisemblablement, Aotourou parlait de Reiatea, même s'ils avaient déjà dépassé l'île. Avec des gestes explicites, Aoturu signifiait soit qu'il avait un enfant à terre, soit qu'il était né là. Et quand le navire continua à naviguer vers l'ouest, il saisit la barre et essaya frénétiquement de la tourner dans cette direction. Lorsqu'un marin lui arracha la barre des mains, Aoturu eut l'air bouleversé. À l'aube, le lendemain, il monta au sommet du mât et y resta toute la matinée à regarder fixement et tristement dans cette direction.
Moi, je n'ai accès qu'à une très petite partie de ce qu'a pu être Aoturu. Voilà, l'histoire d'Aoturu, c'est une tragédie, une suite de, voilà, d'occasions manquées, de gâchis. Mais c'est surtout quelqu'un qui incite à penser différemment. À voir les choses différemment. À Aoturu, ce que je souhaiterais faire passer, c'est qu'il mérite qu'on s'intéresse à lui. À Jakarta, quand Cook, hein, de retour de son propre voyage, un an après le passage de Bougainville à Tahiti, lorsqu'il fait lui-même escale à Batavia, Jakarta, ben, il rencontre quelqu'un qui, voyant auprès de Cook Tupaya, avec son paréo, enfin, on appelle ça paréo aujourd'hui, en tout cas le costume tahitien, la jupe longue que portent les hommes, il va vers lui, lui explique qu'un an avant, il y a quelqu'un habillé pareil qui est passé et que, voilà, il voudrait avoir de ses nouvelles. Et c'est quelqu'un de Batavia, je sais pas, un marchand indien ou chinois ou un indonésien, et il cherche à avoir des nouvelles d'Aoturu qui a passé que quelques jours, mais au-delà, certainement, du côté exotique qu'il pouvait avoir, il a marqué les gens. En tout cas, c'est une histoire qui est loin d'être faite.
Iteyene, tururi neite man'o, te anu neita fifi neimaitimo puipoia, apuapuia paruhia te maa. Tauho i e whaautie ere anai.
Maintenant, je l'esprit confus. Mes pensées s'entremêlent comme des anguilles affamées à qui l'on donne à manger. C'était mon choix. Je suis tout de même issu du haut rang des chefs et des Arioi. Je dois montrer l'audace, la bravoure. Pourquoi le regretterais-je alors? Une décision trop hâtive peut-être. Je voulais juste les impressionner pour que mon nom reflète gloire et respect. Quel idiot je fais maintenant. Tout s'est passé si vite. Je regrette de ne pas t'avoir serré, caressé avant de partir. J'étais censé te revoir, te dire au revoir.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est l'homme.
Flora Devatine, poétesse et membre de l'académie tahitienne Fare Vanara.
C'est l'homme du lieu qui porte encore le nom de Ahutoru, c'est qu'il est quelque part lié à ce récit, à cette histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle. Voilà. Ça aurait été intéressant pour vous d'interroger un monsieur Ahutoru d'aujourd'hui, descendant ou non, mais en général, les noms étaient à vous. On n'avait pas le droit d'utiliser le nom d'une autre famille. Et donc, ceux qui portent le nom de Ahutoru aujourd'hui ne peuvent qu'avoir un lien avec cette histoire d'il y a, 250 ans exactement, en effet. Ouais. Mais je sais qu'il y a des familles Ahutoru qui existent, hein, et elles sont nombreuses aussi, dans la grande île, à Hitia, parce que à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, parmi les premiers pasteurs protestants, il y avait le pasteur Ahutoru, oui. Vous êtes allé à Hitia à ce moment-là, on vous a montré le marais. Oui. Et bien donc, disons que les premiers pasteurs qui habitaient là, c'est porter le nom de Ahutoru. En fait, oui, je suis apparentée à cette famille, puisque par ma mère, qui est donc qui a des ancêtres de Hitia, liée à la famille Ahutoru, c'était une grande famille. Oui. On parle de Ahutoru, mais en fait, ce n'est pas de Ahutoru qu'on parle. On parle de ce que l'on a raconté, dit de Ahutoru, et on veut savoir qui il est. Mais en fait, la première chose pour savoir qui il est, c'est chercher, est-ce qu'il a des liens? Est-ce qu'il a de la famille, son père? C'est rechercher sa généalogie ou des gens qui portent encore son nom. C'est comme ça la pensée polynésienne. Oui. Ce sont les noms de la généalogie. Autre détail. Oui. Autre manmanu. Far il a été iré. Farua fatmatai. Les noms de la généalogie. Farua fatmataiye. Nani ema iré teute. Tahiri ma iré to ar. Ewa to potahiye teuariye. Teuariye. Ufaufaufa te amanu.
Merci à Flora Devatine, Véronique Larcade, Antoine Lilti, Serge Tcherkezov, Corinne Rebaud, John Merail, Tamara Maric, Jacques Vernaudon, Yves Doudout, Toari Traki, Terena Rey, Enyo Eagle et le groupe 1515, Mareva Gassien et Néné. Encore merci à Noémie Savinien, Guillaume Alévèque, Tara Ilkili, Verea Tessier. Coordination, Marivonne Abolivier, Perrine Kervran. Prise de son studio, Manon Houssin. Réalisation, Nathalie Battus. À la recherche d'Ahutoru, premier Tahitien en Europe. Un documentaire proposé par Delphine Morel.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Tahiti, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Tahiti perdu, Tahiti retrouvé. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.